Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Il est un peu plus de 11h sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur cette fréquence pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire, avec un nouvel invité que j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois sur l'antenne de Radion. On avait enregistré avec lui il y a plus de 8 ans, c'était sur une autre antenne, une émission consacrée à son ouvrage, qu'il avait d'ailleurs écrit avec sa femme, qui est bien connue, je crois, en Bourgogne, Noël Renaud. Mais c'est le mari qui est aujourd'hui avec nous, Philippe Berthelangereau. Bonjour Philippe.
Bonjour à vous.
C'était Le Pays Morvandieux à l'époque, nous en avions parlé, une belle publication, comme toutes celles que vous faites d'ailleurs assez régulièrement, parce que le Berthelangereau, Renaud, le couple, pond de nombreux ouvrages sur le Morvan. Vous, Philippe, vous êtes né à Avallon.
Tout à fait.
Je ne donne pas l'année.
En 1954, il n'y a rien à cacher.
Vous êtes retraité d'éducation nationale. Vous avez été longtemps enseignant au collège de Montsauge, donc dans la Nièvre. Oui. Et puis, depuis plus de 35 ans, vous collectez de nombreuses informations sur différents domaines de la vie du Morvan, travaux agricoles et forestiers, les moulins, les galvachés, architecture traditionnelle, une bonne vingtaine d'ouvrages à votre actif.
Oui.
Et le tout dernier qui nous intéresse aujourd'hui, Les loups dans le Morvan aux éditions Sutton, les nouvelles éditions Sutton. Alors vous aviez commis un roman, Les loups n'oublient jamais, en 2016. En 2016, information qui m'avait échappé d'ailleurs, je ne savais pas Philippe. Et puis vous aviez aussi publié des nouvelles aux éditions, aux défuntes éditions de l'Armançon.
Oui, tout à fait.
Alors Les loups dans le Morvan. Le Morvan, bien sûr, et ses hameaux ont entretenu une histoire un peu d'amour, répulsion, fascination, crainte avec cet animal qui a été très présent dans le Morvan. On sait par exemple que le département des Vosges a été aussi un grand réservoir de loups. Les loups ont toujours un peu accompagné les hommes. Je dirais que ce sont un peu les hommes qui ont vécu au milieu des loups pendant longtemps dans le Morvan.
Oui, ce sont les hommes qui ont été un petit peu les intrus par rapport au domaine des loups. Hein, quand le Morvan est resté longtemps une terre inconnue dans le courant du Moyen-Âge. Et là, vous aviez des seigneurs locaux et des monastères qui avaient des propriétés considérables, mais qui étaient vides d'hommes. Et c'est pour ça que pour mettre en valeur ces domaines qui restaient improductifs, les seigneurs et les moines, les monastères, ont fait venir, notamment de Picardie, du nord de la France, ont fait venir des populations, des familles qui ont été déplacées et à qui on offrait quelques arpents de terre pour s'installer, pour mettre en valeur, défricher les forêts et mettre en valeur les terres des seigneurs. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez, notamment dans le nord du Morvan et puis sur la région de Château-Chinon, des noms de hameaux, ce qu'on appelle des noms pluralisés, les petits, les bouchous, etc., qui font référence aux premières familles, aux premières communautés qui s'étaient installées là.
Alors puisque vous parlez des toponymes, il faut reconnaître que dans les quatre départements de la Bourgogne, il y a un certain nombre de villages, de lieux-dits, de hameaux où le mot loup se trouve associé.
Ah, oui.
Alors dans la Nièvre, par exemple, on vous rappelait que à Corbigny, par exemple, alors vous en avez dénombré un très très grand nombre. À Corbigny, il y a la rue au loup, il y a la tour du loup à l'Orme, tour aujourd'hui détruite. Alors à Château-Chinon, il y a une roche qui s'appelle la maison du loup. Bon, dans Lyon, alors c'est vrai que dans Lyon, il y avait beaucoup de loups dans Lyon, notamment la forêt d'Othe, qui était aussi un grand territoire de chasse. Mais vous parlez de la Fontaine du Loup à Mailly-le-Châtel, ou à Grimaud, au sud de Noyers, il y a la croix au loup.
Une belle croix, oui.
Donc le loup omniprésent dans la vie des Français du Moyen-Âge jusqu'à, on va dire quoi, fin 19e siècle
Début 20e, oui. La guerre de 14 a mis un petit peu un terme. Bon, ça ne s'est pas fait en un jour, hein, mais à partir du moment où il y a eu le poison, les primes pour la destruction, tout ça, la population des loups n'a cessé de décroître, hein, jusqu'à disparaître pratiquement totalement. Et ce n'est qu'en 1992 que le loup réapparaît officiellement en France. Ce n'est pas une réintroduction artificielle comme peut-être pour les ours ou le lynx. Le loup est venu d'Italie. Hein, ce sont des souches italiennes qui ont traversé les Alpes et qui sont venues s'installer dans le massif du Mercantour, dans l'arrière-pays niçois, si vous voulez. Et de là, depuis 1992, donc depuis plus de 25 ans maintenant, le loup ne cesse d'étendre son domaine.
Et d'ailleurs, vous parlez de ces apparitions du loup. La presse locale, je me rappelle, il y a quelques mois, en première page de Lyon Républicaine, il y a...
Le village de la peur, on disait, oui, il y avait dans Lyon.
C'est un village du Tonnerrois où il y a déjà eu, je crois, des attaques de loups sur
à la frontière avec l'Aube, je crois.
C'est cela, hein? C'est cela. Mmh. Où le loup attaque des moutons, du bétail. Enfin, c'est l'ennemi des fermes, encore l'ennemi des fermes.
Et alors, ce sont des loups. Il y a un très beau film qui est passé, c'est un film documentaire qui est passé récemment. Il est passé encore hier soir sur la, je ne sais plus quelle chaîne, enfin, peu importe, qui s'appelle « L'Odyssée du loup ». Et qui raconte l'histoire d'un loup qui est chassé de la meute et qui va traverser toute l'Europe jusqu'en Espagne pour lui-même reconstituer sa propre meute. Et les loups qu'on voit dans la Nièvre en ce moment, on en a entendu parler notamment l'année dernière, ou dans Lyon, comme vous le dites, et ben ce sont des loups, des jeunes loups qui ont été chassés par les anciens, par les chefs de la meute, si vous voulez, qui ont été chassés et qui errent un peu jusqu'à reconstituer eux-mêmes. Donc ce sont des loups un peu errants, si vous voulez, hein, isolés.
Peut-être plus dangereux ?
Oh, pas forcément plus dangereux, mais ils sont quand même isolés, ils sont pas structurés.
Hein. Parce que c'est ça aussi qui est très intéressant, Philippe Berthelangereau, c'est que la meute des loups a une organisation entre elles. Il y a des règles, il y a des codes. Et ça rappelle aussi un peu les règles et les codes de l'organisation de la vie des humains.
Ah ben tout à fait, tout à fait. Donc un loup qui est chassé, un jeune mâle par exemple, qui est chassé par le mâle dominant de la meute, va être rejeté et lui-même... Bon, il est, si vous voulez, il est errant, ça doit se passer un petit peu comme si un humain était rejeté de son groupe, de sa famille, etc. Donc il y a quand même certainement un stress et il cherche avant tout à se nourrir. Donc s'il tombe dans un troupeau de moutons, malheureusement, il est capable d'en tuer plusieurs.
Alors il est vrai qu'aujourd'hui, le pays est en paix. Enfin, il faut imaginer ce que nos ancêtres ont connu entre la mortalité infantile, les épidémies, les ravages de guerre. Alors évidemment, les champs de bataille, les cadavres humains, les loups s'en délectaient.
Ça, hein.
C'est évident. Les famines, les mauvaises récoltes. Franchement, le loup a été longtemps aussi, selon l'expression, un fléau de Dieu.
Ah oui. Ah oui, parce que les familles, il faut imaginer se reporter dans le contexte. La paysannerie française était très pauvre, hein, donc une famille pouvait posséder deux ou trois moutons, une vache dans le meilleur des cas, etc. Donc un loup qui s'attaquait à un petit troupeau qui décimait deux ou trois bêtes ou plus, c'était une catastrophe pour la famille, hein, la famille de paysans.
Alors, Philippe, vous vous êtes intéressé au loup un petit peu. Il y a quelques chapitres. Bien sûr, c'est le Morvan qui vous a préoccupé. Vous parlez un petit peu du Portugal et de l'Espagne. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Le poids des loups. En vous lisant, alors par exemple, Vous mentionnez un loup de 25 kilos qui avait été tué à Dornecy en 1885, et puis dans la Nièvre en 1896, un loup qui a été donc tué pesait 82 kilos. Alors, ce sont des bêtes justement. Le terme de bête est intéressant. Il y a eu, bien sûr, on le sait, je crois que c'est 1732, la fameuse bête du Gévaudan. Là aussi, c'était un phénomène quasi européen, la bête du Gévaudan, c'était sous le règne de Louis XV. Il y a eu aussi, 1700, la bête du Gévaudan, j'ai dit une erreur, c'est les 1760. Ouais. 1732, c'est la bête de l'Auxerrois. Il y a eu aussi dans Lyon, alors là encore une bête. Et le terme de bête renvoie aussi au caractère, l'aspect diabolique de l'animal.
Oui, fantastique un peu. Et puis bon, y a tout l'imaginaire des hommes. On a vite fait de taxer un loup de bête énorme, considérable, etc. Alors que, bon, c'était peut-être un vieux loup avec un poids un peu supérieur, une taille un peu supérieure à celle des jeunes. Enfin bon, un loup reste un loup, je veux dire, c'est pas
Et vous, Philippe Berthelangereau, en sillonnant la Nièvre et la Bourgogne, avez-vous déjà aperçu une silhouette de loup?
Alors, je n'ai jamais vu de loup sauvage. Par contre, parmi vos auditeurs, il y en a certainement qui connaissent le parc du Gévaudan, qui est à côté de Saint-Chély-d'Apcher en Lozère et qui présente les différentes races de loups qu'il y a en Europe et dans le monde. Et puis il y a également dans la Creuse, il y a à côté de Guéret, il y a un beau parc à loups qui s'appelle les loups de Chabrières. Et donc là où on peut voir des loups, pas en liberté si vous voulez, mais qui sont dans des parcs qui sont... ils sont bien visibles, ils ont quand même aussi une structure entre eux, de famille, etc. Donc voilà, moi ce sont les seuls loups que j'ai pu apercevoir. Je pense que voir un loup sauvage, c'est quand même un animal qui vit plutôt la nuit, qui craint l'homme.
Très méfiant,
très intelligent. Donc apercevoir un loup, ça demande un travail de patience extraordinaire.
Donc je rappelle l'épisode de la bête du Gévaudan, parce que voilà, c'est 1764-1767, et cette bête du Gévaudan, qui a donc été abattue, qui a été naturalisée, faisait 60 kilos.
Oui. Oui.
Et qu'elle avait fait 80 victimes en 4 ans.
Oui.
Donc c'était un loup mangeur d'hommes. Là aussi, c'est
voilà.
Le loup mangeur d'hommes.
Et puis bon, derrière la bête du Gévaudan, il y a quand même eu pas mal de recherches de faits, de livres écrits, etc. Et puis finalement, on ne sait pas trop ce qu'était, parce que cet animal, quand il a été tué, a été transporté de Lozère jusqu'à Versailles, pour que le roi le voie et la cour le voie. Mais vous imaginez le transport à l'époque, il a fallu peut-être 10, 12, 15 jours pour arriver jusqu'à Versailles, et le loup était décomposé, dit-on, et il avait dégagé une telle puanteur que... personne n'a voulu le voir, finalement.
Alors, vous dites, Philippe, que le chasseur, celui qui a tué la bête du Gévaudan le 19 juin 1767, s'appelle Jean Chastel. Et puis l'épisode de la bête de l'Auxerrois, donc 1731, c'était sous le règne de Louis XV. Philippe, si vous le voulez bien, on marque un premier temps de pause musicale. Je rappelle que Philippe Berthelangereau est notre invité aujourd'hui dans Wagon Livre pour son dernier ouvrage. C'est un essai très passionnant, avec donc un très grand nombre de témoignages qui sont reproduits, de très beaux dessins de votre camarade Patrick Vaucoulon, que j'avais rencontré d'ailleurs au salon du livre de Saulieu, qui est un homme aussi remarquable, avec lequel il faudrait faire aussi une émission. Parce
c'est
que lui, il est
bon
allé dans les pôles,
il
dessine, il est aquarelliste et il a un talent exceptionnel.
Tout à fait.
Des photographies et de très beaux documents reproduits dans cet ouvrage, disponible en librairie aux éditions Sutton. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité.
Je t'ai pas tout dit. Je pars de Paris, perdu mon Paris. Je change de vie. Je veux pas ton avis. Je quitte le navire. Oui, je prends le large. Sois barge et suis-moi. Tu m'as fait l'échapper belle. Échapper belle avec toi. Tu me feras la courte échelle. On sera des
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Les loups dans le Morvan, c'est le titre de l'ouvrage de Philippe Berthelangereau qui est aujourd'hui devant les micros de Wagon Livre. Philippe Berthelangereau, comment avez-vous travaillé ? Alors, il existait déjà quelques livres, sans doute, sur les loups dans le Morvan. Vous êtes allé fouiller dans les archives départementales. Vous avez lu aussi beaucoup de comptes rendus, de conseils municipaux, de villages de la Nièvre. Comment organise-t-on ces recherches? Ça, c'est intéressant aussi.
Eh bien, curieusement, il existait peu d'écrits sur le loup, peu d'études sur le loup spécifiquement dans le Morvan. Et donc, en 82, je faisais partie d'une association qui s'appelait La Poêlée, qui travaillait sur le Morvan, et qui était une association, bon aujourd'hui elle est disparue, mais à l'époque on avait pour mission d'enregistrer des témoignages au niveau des traditions, au niveau de la musique locale, traditionnelle. Et à l'époque, en 82, j'avais entrepris de faire des enregistrements auprès des anciens, donc auprès des personnes de l'époque qui était née dans les années 1895, 1900, 1910, et qui, à l'époque, avait toujours des souvenirs bien, bien ancrés, bien précis sur la présence des loups dans le Morvan. Alors, c'est des gens que j'avais enregistrés, une trentaine à peu près, et qui racontaient des faits, des anecdotes qui étaient arrivées soit à leurs parents, soit à leurs grands-parents, ou même arrière-grands-parents. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, parce que les arrière-grands-parents de ces personnes-là étaient nés tout à fait au début du 19e, dans les années, au début des années 1800. Et donc, c'est là qu'on voit qu'avec la mémoire, on peut passer les générations, hein. Et j'avais donc entreposé toutes ces cassettes, je les ai réécoutées et je me suis dit le loup fait parler de lui dans le Morvan, puisqu'en 2017 il avait été photographié dans la région de Château-Chinon à Chougny exactement par un agriculteur qui s'était fait tuer quelques brebis, qui avait mis une caméra pour filmer la nuit. Donc je me suis dit, ben, le loup réapparaît dans le Morvan, donc pourquoi pas utiliser toutes ces données qui avaient déjà près de 35 ans. Et je me suis attaché à ça. Et puis, évidemment, en compulsant aussi les archives départementales de la Nièvre et de Lyon, où on retrouve beaucoup, beaucoup de témoignages anciens.
Alors, il y a aussi un grand intérêt à lire les bulletins paroissiaux, les curés racontant parfois, tenant la chronique nécrologique des ouailles. Voilà. Un tel attaqué par un loup, un enfant tué, décapité par un loup. Il y a des choses terribles
dans
les témoignages.
Tout à fait, oui. Il y a des beaux témoignages et des témoignages très précis en général, avec le nom des personnes, évidemment la date, le moment de la journée, des enfants qui étaient en train de garder un troupeau, qui s'amusaient, puis un loup a surgi, en a emmené un, etc. Enfin, il y a vraiment des témoignages qui sont émouvants des fois, et puis très vivants aussi. Hein.
Alors, si vous me le permettez, Philippe, je vais vous laisser le temps de trouver un témoignage. Moi, je vais lire celui qui est reproduit dans votre ouvrage, alors sous la plume de Vauban, dans sa description géographique de l'élection de Vézelay. Bon, Vézelay est dans le Morvan.
Oui. Ah oui, oui, oui. Hein.
Avallon est ville-porte du Morvan, mais Vézelay est...
Disons que ce sont les marges.
Et voici ce qu'écrit Vauban en 1696. « Il y aurait assez de gibier ou de venaison si les loups et les renards, dont le pays est plein, ne les diminuaient considérablement. » Les mêmes loups font encore un tort considérable aux bestiaux, dont ils blessent, tuent et mangent une grande quantité tous les ans, sans qu'il ne soit guère possible d'y remédier à cause de la grande étendue des forêts dont le pays est à demi couvert. Donc le loup, le loup concurrent présent. Des chasseurs.
Ah oui, puis concurrent surtout des malheureux paysans qui essayaient d'élever quelques bétails.
Alors, en 1709, à Clamecy, vous racontez qu'un boucher de Clamecy aurait vendu de la viande de loup à une famille qui, justement, va se plaindre. C'est en 1795, à Clamecy, pardon. Donc, on est au moment des épisodes de la Révolution française. Et d'ailleurs, à Clamecy, on a donné au Clamecy quoi le surnom de mangeur de loup.
Le mangeur de loup, exactement. Oui.
Alors, on a vendu à cette famille de la viande de loup en disant que c'était de la chèvre. Alors, c'est très amusant. C'était pas la chèvre de M. Seguin. Mais là aussi, on voit bien dans le patrimoine littéraire, vous qui avez été professeur de lettres, Philippe, le loup, on le rencontre en poésie, on le rencontre dans partout, les contes, dans les légendes. C'est exceptionnel, cet animal.
Oui.
Est-ce que vous voulez nous lire un témoignage? Alors, il y en a beaucoup, et moi je vous avais demandé avant d'enregistrer cette émission d'en mettre un en valeur, mais pendant que vous recherchez ce témoignage, on va parler dans quelques minutes un petit peu de la lutte organisée. Alors, elle l'a été depuis longtemps, puisque finalement ça remonte à 813, Charlemagne, l'institution, la création de cette caste de privilégiés des louvetiers.
Avec les louvetiers, ça remonte même à Charlemagne, la création.
Alors, est-ce que vous voulez nous lire un témoignage, un des plus impressionnants, et il y en a qui sont absolument savoureux.
Je trouve que c'est un beau témoignage qui a été écrit par François Roumier, qui m'a été remis d'ailleurs par un de ses descendants. Hein. Et ce monsieur qui était originaire de Dun-les-Places avait écrit en 1978 ce témoignage qu'il avait écrit pour ses petits-enfants. Au temps de mon enfance, au début de ce siècle, c'est-à-dire le 20e, il n'y avait pratiquement plus de loups en Morvan. À peine pouvait-on voir, par les hivers rigoureux et neigeux de cette époque, les traces de deux ou trois hardes de ces animaux qui se déplaçaient pour subsister de la forêt des Ardennes à celle du Nivernais. Mon seul souvenir authentique est celui de la large empreinte d'un loup qui, en janvier 1914, par un grand froid, était venu ronger la porte des écuries dans l'espoir de se procurer de la nourriture. Cela avait provoqué un beau tumulte chez les animaux domestiques et les chiens de chasse qui ont horreur du loup et de son odeur. Le jour même, nous avons traqué la bête avec d'autres chasseurs sans succès. Les chiens revinrent rapidement, la queue entre les jambes, épouvantés par les fauves qui leur tenaient tête dans les rochers du bois Nonain. Après 1870, l'organisation des compagnies de louveterie, armées de fusils à piston ou à broche, la diffusion des armes à feu et surtout la prime de 50 francs or offerte par l'État pour chaque bête abattue, avait rapidement provoqué la disparition de ces bêtes dites faramines. Vous voyez, c'est un peu un témoignage sur la fin des loups dans cette partie du Morvan.
En fait, on peut considérer que le nombre de loups va diminuer dans les années 1890, là oui. où on a vraiment essayé de l'éradiquer.
Même avant, à partir de 1870, quand même... le loup finit par... Et ce qui est curieux, c'est que dans certaines communes, vous avez, puis dans les témoignages que j'avais recueillis, on disait, ah ben le dernier loup du Morvan a été tué à tel endroit, le dernier loup du Morvan a été tué à tel endroit, et finalement, des derniers loups, ben, il y en a plusieurs.
Oui, hein? C'est ça, c'est voilà. Très difficile.
C'est très difficile de savoir exactement... Quand le loup s'est totalement éteint.
En tout cas, vous recensez le nombre de loups tués sur certaines années. Par exemple, en 1798, dans la Nièvre, 355 loups tués, dont deux loups enragés. Oui. Alors, cette fois-ci, 1806-1811. Mais là, on est dans le pays à Valonnay. Mmh. Vous dites 100 loups furent anéantis. Donc vraiment, l'animal pullulait.
Ah ben, il y avait beaucoup. Oui, puis la louve est quand même un animal prolifique. Hein. Une louve peut donner naissance tous les ans à 4 ou 5 louveteaux sans problème.
Hein, alors, vous racontiez aussi, justement, vous parlez de naissance de loups. Je ne sais plus dans quel village une petite fille trouve au creux d'un arbre 4 magnifiques petits chiens, ce qu'elle pense être des tout petits chiens adorables. Oui. Et elle en ramène 2 à la maison et sa mère lui dit « Mais où t'as trouvé ces sales bêtes ? Va les ramener et elle les ramène. »
C'est à Ourou, le hameau de Montpensy. Oui. C'est un très beau témoignage qui avait été raconté par le fils de la petite fille, donc, qui à l'époque avait déjà 90 ans.
Alors on sait que le loup est l'ennemi des fermes, qu'il peut très bien charger un mouton sur son dos, ça c'est authentique
on
ou c'est
dit,
dans la légende
on le dit, on le dit que le loup... Le loup est capable de balancer un mouton, peut-être pas un mouton adulte, mais au moins un agneau sur son épaule et de l'emmener. Il y a quand même pas mal de témoignages qui le précisent.
Et puis on parle du loup et l'agneau, ça rappelle aussi cette fable de Jean de La Fontaine. Vraiment, le loup est omniprésent dans la vie, dans l'esprit des Français. Aujourd'hui... Aujourd'hui, le loup est un animal...
Le loup, je vous dis, dans l'arc alpin quand même, dans tous ces départements du sud-est de la France, le loup devient pour les éleveurs, pour les bergers, un problème. Alors, c'est pour ça que je me suis un petit peu intéressé aussi au Portugal et à l'Espagne, parce que dans ces pays-là, le loup, et en Italie également, le loup est toujours très présent. Et si vous voulez, les bergers, en France, on a tendance à dramatiser le phénomène. Mais dans ces pays-là, dans certaines régions de ces pays-là, les éleveurs vivent avec le loup comme nous, on vit avec le renard ici, si vous voulez.
Oui, avec les nuisibles que nous connaissons.
Mais par contre, ils sont armés de... ce qui fait certainement leur force, qu'on n'a pas en France, ils sont armés de protégés par des chiens qui sont dressés spécialement et qui sont dressés, qui naissent pratiquement, les chiennes mettent bas pratiquement au milieu des moutons. C'est-à-dire que le chiot qui est appelé à protéger le troupeau naît pratiquement avec les agneaux, etc. Et en grandissant, il fait partie intégrale du troupeau.
C'est notre invité Philippe Berthe-Langereau qui signe Les loups dans le Morvan aux nouvelles éditions Sutton. On se retrouve avec lui dans une poignée de minutes et on vous offre une petite pause musicale. A tout de suite.
Embrasse Laisse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Papillon de fleur en fleur, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Qui se passionne, qui se saigne. J'aime quand mon écorché est vivant. Je ne donne pas long feu à nos tragédies, à nos adieux. Reviens-moi, reviens-moi, tu partiras mieux comme ça. À force de se tordre, on en finirait par se mordre. À quoi bon se reconstruire quand on est adepte du pire? Malgré nous, à quoi bon se sentir plus grand que nous? Deux grains de folie dans le vent, deux âmes brûlantes, deux enfants. Il y a des salauds qui pillent le cœur des femmes et des femmes qui ne savent plus trop d'où l'amour tire son charme. Des papillons de fleurs en fleurs, d'amour en amour, de cœur. Ceux qui n'ont qu'une étoile ou ceux qui brûlent leur voile. Dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire pour te voir partir. Viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas, écorche mes ailes, envole-moi et laisse-toi tranquille à la fois. Mille fois entrelaçons-nous et lassons-nous même en dessous. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi jusqu'à étouffer de toi. Serre-moi encore, serre-moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Philippe Berthelangereau, alors on parle du loup, le loup, dans, les loups dans le Morvan, c'est le titre de votre essai aux éditions Sutton. Alors le loup devient encore plus problématique lorsqu'il s'attaque à l'homme.
Oui, et alors le loup est un animal, comme vous le disiez tout à l'heure, très méfiant, mais il perd toute méfiance lorsqu'il est atteint par la rage. Et ça, j'avoue que en faisant ce travail-là, c'est un point qui m'a beaucoup ému, parce que le loup, la maladie de la rage est une maladie terrifiante. Hein. J'ai été voir sur Internet et ailleurs pour avoir des tuyaux sur cette et on comprend vraiment que Louis Pasteur s'y soit attaqué. Avec autant de volonté, parce que la rage est une maladie terrifiante, et quand elle atteignait les loups, hein, quand un loup était atteint par la rage dans un village ou dans une région, ça prenait des allures catastrophiques. On sonnait le tocsin justement pour signaler sa présence, parce que le loup enragé perd toute méfiance vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire que Il est capable de se précipiter sur un troupeau, sur un cheval, sur un âne à l'époque, sur des enfants, sur une femme qui est en train de laver du linge dans un lavoir, sur un homme qui est en train de faucher. Son but, c'est de mordre sans aucune distinction. Et quand il a mordu la personne, c'est une maladie qui devient terrible. Il y a une incubation sur plusieurs semaines. Il y a un très beau témoignage du sous-préfet d'Avallon qui raconte sur Girolles, un loup qui est parti de Girolles, qui a finalement pu être neutralisé à l'autre ville sur la commune de Saint-Germain-des-Champs et qui a contaminé plusieurs personnes, je crois que c'est une quinzaine de personnes, et c'est des personnes qui meurent dans des souffrances épouvantables. La rage finit par étouffer, on meurt par étouffement, elle bloque les muscles respiratoires et c'est une maladie terrible.
Et puis vous en relevez beaucoup. Alors, dans l'almanach du bien public en 1808, là on est en Côte d'Or, il y a un loup qui rôde. On le rencontre à La Roche-en-Brenil, on le trouve dans les rues de Saulieu. Il suit la route des diligences qui conduit à Autun. Et là, il y a une aventure absolument formidable. Alors, ce loup était-il enragé ou pas? On ne sait pas, le témoignage ne le dit pas. Mais le loup va être tué au hameau de Pierre-Écrite, c'est-à-dire c'est la commune d'Aligny-en-Morvan.
Oui, c'est ça.
Et il est tué dans un cabaret par un homme qui s'appelle Machin. Et là aussi, il y a un témoignage absolument formidable. Oui. Des gens qui deviennent un peu des héros aussi.
Qui deviennent des héros et qui promènent le loup, enfin la dépouille du loup, qui la promène dans tous les hameaux, dans tous les villages, dans toutes les communes alentour, pour pouvoir recueillir, si vous voulez, soit des œufs, soit de l'argent, soit enfin quelque chose, une récompense pour avoir éliminé le loup. À tel point que même il y a des maires qui ont pris des arrêtés stipulant qu'il était interdit de promener la dépouille ou la tête d'un loup abattu dans telle commune si on n'avait pas l'autorisation de la mairie pour le faire. Parce qu'il y en a qui profitaient des circonstances, qui récupéraient un animal ou alors un animal qui avait été tué il y a longtemps, qui était dans un état de putréfaction, puis qu'il promenait toujours pour récupérer soit de l'argent, je vous dis, soit des œufs, du pain, etc.
Il y a aussi quelques malicieux qui ont capturé vivants des loups et qui en ont fait des sortes de bêtes de foire.
Oui, ça s'est produit. Pour gagner de l'argent toujours, ou alors cette femme aussi extraordinaire dans la forêt de Villaporçon qui suivait les traces des louves. Alors évidemment la louve qui va mettre bas est plus lourde, si vous voulez, donc elle reconnaissait les traces dans la neige de ces louves qui étaient prêtes à mettre bas au début du printemps. Et elle repérait leur cache, et après, une fois que la louve avait mis bas, elle récupérait, une fois qu'elle était partie chercher à manger alentour pour nourrir ses petits, elle récupérait donc les petits pour les emmener et toucher la prime.
Alors elle leur coupait les oreilles en fait.
Elle leur coupait les oreilles. Et il y a certains préfets qui ont dit attention, les oreilles de jeunes loups ressemblent étrangement à celles des jeunes renards. Donc, il y a eu aussi de la fraude, mais les Gaulois sont comme ça.
Alors, il y a des documents formidables. Par exemple, des pieds de loup pris en forêt de Saint-Fargeau entre 1800 et 1880. Ce sont des pieds de loup naturalisés.
Oui, naturalisés.
Bon, qui sont très endommagés, comme vous le dites dans la légende de la photographie, et qui se trouvent conservés donc au château de Saint-Fargeau. C'est aussi extraordinaire. Oui. Alors, il y a aussi une photographie qui montre, alors on est au début du XXe siècle, dans une rue de Saulieu, sur le marché, on voit un homme avec un manteau,
en peau de loup.
Et puis, il y a des messieurs plus... Alors, vous avez mis une photographie de Monsieur de Certaines qui conserve au château de Villemolin,
à côté de Corbigny,
dans la Nièvre, un manteau fait de peau de loup que portaient ses ancêtres.
Et une belle, ils ont un beau chef de loup, une belle tête, un trophée de loup dans ce château aussi qui est très intéressant, qui avait été tué à la fin du 19e.
Alors, je l'ai dit au début de notre émission, le loup qui bien sûr terrorise, fait peur, hein, seul ou en meute. Le loup qui fascine, et puis le loup, animal avec une sorte de magie qui s'attache à la peur de cet animal, à sa fascination. Alors, par exemple, dans votre ouvrage, vous citez la nouvelle maison rustique de Louis Liger, donc c'est un homme plutôt du seconde moitié du XVIIe siècle, qui donne des informations notamment sur les dépouilles du loup. Et on apprend notamment que pour essayer, en faisant brûler par exemple le cœur d'un loup, on obtient une poudre qui effraie les chevaux, qui effraie n'importe quel animal. Ça, c'est assez incroyable.
Ah oui, ça, et ça m'a été confirmé par une vieille dame d'Ouroux, il y a 3 ans, et qui parlait de quelqu'un dont elle avait entendu parler. Son père parlait de le foie du loup. Lorsque un loup avait été tué, on prélevait le foie. Et donc, ce foie-là, cet homme-là l'avait mis dans une sacoche, dans une besace, et il était allé à Corbigny. Et il savait très bien ce qu'il faisait. Lorsque toutes les bêtes étaient sur le foirail à Corbigny, hein, les veaux, les vaches, les bœufs, etc., les chevaux, il s'était promené sur le champ de foire à Corbigny, et l'odeur du foie du loup avait épouvanté les animaux, et le foirail paraît-il que tous les animaux étaient complètement bouleversés, retournés, excités par cette odeur-là. Et vous le dites, donc c'était cette poudre de foie, on le dit, hein, ce fameux témoignage.
J'ai le témoignage, Philippe, si vous me permettez, puisque je suis à la page.
Tout, hein.
Voici, suivant eux, de quelle façon on peut exécuter ce beau sortilège. Prenez un foie de loup, faites-le sécher en le grillant jusqu'à ce qu'il puisse se réduire en poudre. Pulvérisez-le et jetez-le dans l'air sur quelques chemins où vous verrez venir un carrosse. Jamais les chevaux ne passeront que cette poudre ne soit entièrement dissipée. Alors après, on a d'autres informations absolument passionnantes. Ouais. Les dents de loup s'emploient au hochet des enfants et servent aux orfèvres, relieurs, graveurs et doreurs pour polir leurs ouvrages. Les peaux de loup servent à faire des manchons et des fourrures de manteau dont on prétend que les poux, punaises et autres vermines n'approchent pas. Il y en a aussi qui disent qu'une peau de loup tannée mise entre les draps et la couverture préserve du froid pendant l'hiver et du chaud pendant l'été. Du froid en mettant le poil de la peau vers soi et du chaud en mettant le poil en dessus. Le grand boyau de loup et de louve serre après qu'il a été bien dégraissé et bien nettoyé en sorte qu'il n'y demeure que la simple peau pour la rendre déliée et séchée comme un ruban de soie. C'est alors un remède infaillible contre la colique. En se la mettant autour des reins sur la chemise, dit-on, aux hommes, celui de la louve, et aux femmes, celui du loup. C'est assez, fascinant.
On tombe tout de suite dans la sorcellerie ou dans le fantastique. Et puis ça rejoint les histoires dont on parlait, les fameux meneux de loup, hein, les musiciens.
Alors justement, on peut peut-être parler. Oui. Qu'est-ce qu'un meneur de loup, un meneux de loup?
Un meneux de loup, écoutez...
Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un pacte avec le diable?
Oui, on en parle dans le Morvan, mais on en parle aussi pas mal chez nos voisins du Berry et puis dans d'autres régions françaises. Bon, le meneux de loup est certainement un personnage un peu énigmatique, un peu en marge de la société du village. Et puis, on lui a trouvé des accointances avec le loup qu'il aurait apprivoisé. Ça demeure assez mystérieux, mais c'est dans des légendes, c'est rapporté dans dans nombre de légendes.
Alors c'est du folklore qu'on trouve aussi là, chez quelqu'un, une grande, grande figure, quelqu'un qui, comme vous, a fait un grand nombre de collectages, c'est Achille Millien.
Achille
Millien,
poète. Voilà. Et qu'on retrouve aussi chez Georges Sand. Hein, voilà, il y a quand même une fascination pour ce personnage. D'ailleurs, il y a un beau portrait qui est conservé au musée de Tulle et qui traduit bien le caractère un peu mystérieux, un peu fantastique du meneur de loup.
Concernant Achille Millien, hein, puisqu'on a parlé d'Achille Millien, né en 1838, mort en 1927, et qui a recueilli des récits traditionnels dans le Nivernais et le Morvan, plus de 2000 chansons d'ailleurs, oui, accompagnées de leurs mélodies. Et on dit d'ailleurs que c'est le français qui a le plus collecté, que c'est gigantesque. Ah, oui, oui. Poète qui était tout de même admiré par Lamartine et Victor Hugo. Il faudrait rendre hommage peut-être à Achille Millien.
Oh, ben, je pense que ça a été largement fait quand même dans la Nièvre. Il y a eu pas mal de manifestations, d'ouvrages, de livres qui ont été faits notamment par la Camosine, hein, qui est une association.
Peut-on apprivoiser un loup?
Alors ça, c'est un problème aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, il y en a qui s'y sont essayés. Hein, et il y a un beau témoignage aussi sur la commune de Saint-Germain-des-Champs d'un noble qui avait essayé d'apprivoiser un loup, qui l'a pris tout jeune au nid. Et le loup le suivait, a grandi évidemment, le loup le suivait lorsqu'il allait faire des promenades à cheval, etc. Le loup était toujours derrière lui. Et un jour, il y a un paysan du coin qui lui a dit « Écoutez monsieur, je ne voudrais pas vous donner de conseils, mais faites attention à votre loup que vous avez apprivoisé parce que... un jour, il pourrait vous faire du mal. » Alors, bon, l'homme a plaisanté. « Non, non, attendez, il est dressé, il est apprivoisé, il me suit partout, etc. Ben, » Il dit « Écoutez, tenez, vous avez votre veste de velours sur les épaules, jetez-la par terre. » Et l'homme s'est exécuté, il a pris sa veste de velours et l'a jetée à bas, sur le sol, et là, le loup s'est précipité et a déchiqueté la veste de velours. Alors du coup, il a pris son fusil et il a tué son loup apprivoisé.
Et l'homme, prend son fusil, tue net la bête et dit « Toi, tu n'auras pas ma peau ».
Voilà.
Et c'était donc le sieur Achille Houdaille, voilà, propriétaire du château de Railly, qui était maire de la commune de Saint-Germain-des-Champs. Ça, voilà, c'est aussi un témoignage absolument savoureux. Donc, on n'apprivoise pas le loup.
Oui, aussi facilement qu'un chien.
Alors, on marque une dernière pause musicale et puis ensuite, nous parlerons de ce qui a provoqué la disparition, peut-être même l'extinction du loup dans le Morvan ou dans d'autres départements de France, c'est-à-dire l'organisation humaine contre les loups, les battues et surtout le système des primes.
C'est les primes qui ont vraiment
encouragé la population
à tuer. Qui était pauvre. Et donc, on en parlera.
On en parle dans une poignée de minutes. Je rappelle que c'est Philippe Berthe Langereau qui signe un ouvrage passionnant, Les loups dans le Morvan, qui est aujourd'hui devant le micro. Et l'ouvrage est disponible en librairie, dans toutes les bonnes librairies, maisons de la presse du Morvan et des quatre coins de la Bourgogne et tout partout en France, aux éditions Sutton.
Je regarde en arrière, je vous vois, les yeux vers la terre, je vous vois, même le nez en l'air, je vous vois. Je regarde la mer, je vous vois, sur la route côtière, tout en bas, au bord de la rivière, je vous vois, même quand tout est noir, je vous vois, et dans la lumière, je vous vois. Je regarde devant, je vous vois, là sur le divan, je vous vois, même en noir et blanc, je vous vois, Quand arrive le soir, je vous vois. Je regarde en arrière, je vous vois. Je sors boire un verre, je vous vois. Même en noir et blanc, je vous vois. Je regarde devant, je vous vois. Je vaux trop un charme fou. C'est petit, je ne sais quoi, moi qui va me rendre fou. Je vaux trop un charme fou. C'est petit, je ne sais quoi, moi qui va me rendre fou.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Une émission que l'on suit à pas de loup aujourd'hui avec notre invité Philippe Berthe-Langereau pour Les loups dans le Morvan aux éditions Sutton. Philippe, parlons un peu de alors je dirais aussi du côté pervers et cruel parfois des humains à l'égard des animaux, mais face à ce nuisible redoutable, ennemi des fermes et des humains, il fallait bien réagir. Et d'ailleurs, les réactions sont anciennes, puisque dès Charlemagne, on décide de tuer des loups, d'organiser des battues.
Voilà, et donc sous Charlemagne est organisée la fameuse louveterie, hein, qui va perdurer. Il y a toujours maintenant, actuellement, il y a toujours des lieutenants de louveterie, hein, qui ont été chargés durant les siècles d'organiser les battues avec, généralement, c'était les paysans du coin, hein, qui étaient réunis pour battre les bois, pour faire sortir un loup de façon à l'abattre, de façon à le tuer. Mais c'était une organisation administrative souvent très lourde, et le temps que tout se mette en place, de réunir tous les gens, de faire les appels, de prendre les précautions nécessaires, etc. Généralement, le loup n'attendait pas ça. Il prenait la poudre d'escampette. Et puis, ça n'a pas été d'une efficacité probante. Hein. Par contre, d'autres moyens ont été employés, hein, pour éradiquer le loup. Et notamment, avec le 19e siècle, la fameuse strychnine, hein, qui est extraite de la noix vomique, qui venait des pays d'Extrême-Orient. Et ça a été un peu le début de la fin, puisque on prenait un animal qui était mort, on le bourrait de ce produit, de ce poison, et en général, mais le problème, c'est que d'autres animaux pouvaient également, comme des chiens, hein, des chiens de berger, etc., pouvaient également être atteints par la noix vomique.
Donc c'était dangereux aussi, de même que les fosses à loups, oui, ont été aussi reconnues dangereuses pour les humains. Alors là, Philippe, il y en a eu beaucoup dans le Morvan, des fosses à loups.
Il y en a eu beaucoup, beaucoup, et il y en a eu beaucoup en France en général et dans d'autres pays, hein. Mais dans le Morvan, il y en a eu. Alors, qu'est-ce que c'était qu'une fosse à loups? C'était tout simplement un puits qui avait été creusé de main d'homme, de façon plus ou moins maçonnée. Il y en a qui étaient creusés dans la terre, tout simplement. D'autres qui étaient avec un parement en pierre, comme un puits, si vous voulez. Et puis, en haut de la fosse, on mettait une espèce de clé, hein, qui pouvait pivoter sur un axe, et sur laquelle on mettait une oie qui est une oie crevée,
une charogne,
qu'on promenait un petit peu tout alentour de la fosse de façon à promener l'odeur et à ramener la charogne vers la fosse. Et puis alors là, le loup, quand tout se passait bien, sautait sur cette fameuse claie qui pivotait et le faisait tomber à l'intérieur de la fosse où généralement on le tuait. Ou alors, il y a certains paysans qui il valait mieux pas être à la place du loup, à mon avis, qui le prenaient vivant et qui le promenaient dans les villages alentours de façon à recueillir des récompenses aussi, de l'argent, des œufs, etc.
Alors, il y a eu aussi des accidents dans les fosses, parce que parfois, c'était des humains qui tombaient dans les fosses par accident et qui ne pouvaient pas en sortir. Alors, vous racontez, il y a des témoignages formidables où des humains se trouvent prisonniers d'une fosse en même temps qu'un loup. Alors, c'est terrible, là.
Voilà. Alors, donc, là, il y a une histoire sur Domcy-sur-Cure, un ménien, comme on dit, qui travaillait le fer blanc, la ferblanterie, et qui s'était trouvé avec un loup dans la fosse. Bon, ça, c'est plus ou moins une légende, je pense. Hein, en tombant dans le trou, il s'est trouvé avec le loup au fond de la fosse.
En tout cas, il faut être réactif. Il faut soit avoir une petite boîte d'allumettes, briquée, comme on dit, ou alors taper ses sabots.
Ou alors un couteau, un outil pour se défendre.
Mais concernant ces fosses, vous citez le docteur Bogros dans « À travers le Morvan » en 1883. Et donc, il raconte qu'il a vu des fosses, notamment dans le bois de Montpensy, sur la commune d'Ouroux.
Oui.
Alors, ces fosses dans le Morvan, on les appelle des louères ou loutières.
Voilà. Hein,
c'est cela. D'ailleurs, vous avez pris en photographie la pharmacie de La Roche-en-Brenis,
oui,
qui s'appelle
la pharmacie
des louères. On est d'accord. Et cette fosse, elle fait, le docteur Bogros dit, 300 mètres de long sur 8 de profondeur et 18 mètres de largeur.
Oui. Alors
c'est
ça,
gigantesque.
Là, c'est également... Bon, c'est une fosse sans en être une. Il y a quand même des recherches qui ont été faites. C'est une belle promenade que je conseille d'ailleurs. Mais on pense que à l'origine c'était des mines à ciel ouvert qui avaient été exploitées. Et peut-être une fois que les mines ont été abandonnées, certains font remonter ces mines à l'époque romaine, à l'époque gallo-romaine. Et on pense que vu le nom de l'endroit, la Loutière, les tranchées, ça s'appelle exactement les tranchées de la Loutière, on pense que ces tranchées-là, qui autrefois avaient pu être des mines, auraient été reconverties, si vous voulez, en enclos, en fosses, pour capturer les loups.
Et puis il y a tous les pièges mécaniques, le hameçon, les pièges à mâchoire, et puis le système des primes. Là, vous expliquez qu'à partir du moment où l'on offre une forte récompense financière, la capture d'un loup en 1850 rapporte 24 francs. Ça représente le salaire d'une douzaine de journées de travail.
C'était
donc,
énorme.
On peut comprendre la motivation.
Voilà, pour des gens qui gagnaient très peu d'argent, des ouvriers agricoles qui étaient très pauvres, ça c'est certain que la prime a encouragé la destruction des loups.
Philippe, on arrive au terme de notre émission. Alors, on parlait de ce village de la peur. Hein, donc, c'est bien un village du Tonnerrois, Mélisé. Et là, vous citez l'Union républicaine du 22 septembre 2018 qui a fait le grand titre avec l'apparition... On avait vu un loup sur cette commune et un loup qui avait fait des dégâts. Un petit mot concernant la pyramide du loup ?
Oui, tout à fait. Alors, la pyramide du loup, moi, j'ai été très, très intéressé par la découverte de cet endroit qui se trouve juste à côté de Toussy. C'est un endroit qui se trouve dans un parc qui est visitable. Et dont il y aura une fête du loup dans cette pyramide le 29 septembre prochain. J'y serai en tant qu'auteur de ce livre-là. J'ai été gentiment invité. Et c'est un endroit qui est intéressant pour les enfants parce qu'il y a une partie qui rappelle les contes où intervienne un loup. Hein, là, vous parliez tout à l'heure de ces loups qu'on retrouve dans les contes et dans les fables. Et puis, il y a une partie également didactique avec la vie du loup, les pièges utilisés pour les loups, etc. Donc, c'est un endroit qui est, à mon avis, qui est très intéressant pour des personnes qui s'intéressent aux loups.
Un grand merci, Philippe, d'avoir été présent ce matin dans Wagon Livre sur Radion. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les loups dans le Morvan, aux nouvelles éditions Sutton. Bon week-end.
Eh ben, merci à vous.
Merci encore d'être venu nous rendre visite. Je remercie Christiane et Dominique Barbe de l'hôtel Avalon-Vauban qui nous ont accueillis, hein, qui est le studio annexe de Radion à Avalon. Bon week-end à toutes et à tous et rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Wagon Livre à 11h, toujours sur Radion. Au revoir.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.